Montreal. Self-love is one of the greatest accomplishments ever. Fulfilling our inner desires without being judged is real. Is flirting an act of unfaithfulness? On Saturday, May 21st, we are all going to 5311 Boulevard de Maisonneuve West to the Caribbean Food Factory for the only event where seduction is
done. CKUD 90.3 FM.
Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça.
Maman, qu'est-ce qu'on mange?
Ni ça. Vous protège pas de ça.
De la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
Ou ça. Ou même de ça.
Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 19 janvier et nous sommes en direct. Et comme tous les soirs, nous allons nous donner 60 minutes pour essayer de mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie, donc n'hésitez pas à réagir, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Avant que je vous présente les invités de ce soir, je souhaiterais, au nom de toute l'équipe de 60 minutes pour comprendre, présenter toutes nos condoléances à Leïla Alaoui. Hier même sur ce plateau, nous analysions et commentons les attentats de Ouagadougou et nous avions appris dans la soirée le décès de Leïla Alaoui. Nous avons une pensée très émue pour sa famille ainsi que pour toutes les victimes de cet attentat et toutes les victimes des attentats à travers le monde. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Raja Mejdati Alami, vous êtes économiste sociologue. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Faisal Farhi, journaliste au sein du quotidien L'Économiste. Et enfin, Mekki Zouaoui, vous êtes économiste et professeur à l'université Mohamed V de Rabat, Agdal. C'est le mois dernier qu'a été lancée à Casablanca, dans le quartier Sidi Bornossi, la deuxième plateforme de proximité destiné à sortir 500 vendeurs ambulants de l'informel. Pas moins de 24 structures similaires sont programmées sur l'ensemble de la préfecture à long terme pour structurer et encadrer un secteur qui représente, selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail, autour de 46% de notre PIB. Alors, comment définit-on l'économie informelle et quel secteur concerne-t-elle? Quelles sont ses retombées en matière économique et surtout en matière sociale? Quels sont les plans prévus pour encadrer ce secteur qui constitue une source de revenus pour plus d'un million de personnes? Peut-on résorber l'informel? Économie informelle entre nécessité et illégalité, c'est le titre de l'émission de ce soir.
Le Conseil économique, social et environnemental définit l'économie informelle comme un ensemble d'activités économiques légales qui se réalisent en marge des législations en vigueur, regroupe des petites activités et entreprises rémunératrices, souvent individuelles ou familiales, et se caractérise par l'inobéissance au cadre fiscal et juridique étatique, l'absence d'une compatibilité légalement tenue, les salaires non déclarés. La première enquête nationale sur l'informel au Maroc a été réalisée par le HCP en 1999. La seconde, plus détaillée, est celle de 2007. Elle reste une référence. Selon les résultats de l'enquête nationale sur le secteur informel de 2007, le nombre d'unités de production informelle est estimé à plus d'un million et demi d'unités, soit la création de 40 000 unités par an en moyenne. Plus des deux tiers exercent en milieu urbain. La plupart des unités se concentrent dans le Grand Casablanca et à Marrakech Tensif Tlhaouz. Selon le secteur d'activité, le commerce et réparation restent le secteur de prédilection pour ces unités, avec une part de 57%. Cette part a augmenté depuis 1999 de plus de 4 points. La part du secteur industriel a reculé, cédant la deuxième place au secteur des services. Pour ce qui est du secteur de la construction, il a également vu sa part baisser. À l'international, la contribution du secteur informel au pays PIB se situerait entre 25 et 50% en Afrique de l'Ouest et à 32% en Asie. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Organisation mondiale du travail.
Alors, résorber l'informel, est-ce que c'est possible? En tout cas, on va voir toutes les actions qui sont entreprises et surtout, de quelle manière on le mesure. On a eu des chiffres aujourd'hui, enfin, que j'ai présentés. On a des études qui datent de 2007 hein, sur l'informel. Oui. Raja Mjati Alami, vous avez commis cet ouvrage, hein, le secteur informel au Maroc. Donc, vous avez bien étudié la question. Il y a informel et informel. Hein, on commençait la discussion même avant le début de cette émission. Alors, c'est quoi l'informel, finalement, si on devait avoir une définition stricto sensu?
Alors, l'informel, là, je ne dis pas secteur ni économie, l'informel est une notion qui est utilisée pour désigner des activités aussi différentes, aussi hétérogènes, que la micro-entreprise telle que l'artisanat, les petites unités de production qui sont de tradition ancienne et qui n'ont rien d'informel. Oui. Elle est utilisée également pour désigner des activités de rue, les marchands ambulants, le commerce, les activités de narcotrafic ou de contrebande, ou encore les activités souterraines qui consistent en des entreprises qui se cachent délibérément.
Il y a l'informel légal, il y a l'informel illégal.
Voilà. Bon, voilà.
Ouais, y a déjà cette
D'ailleurs, il y a une notion pour désigner cet informel légal, mais qui existe, c'est-à-dire qui fonctionne au vu aussi de tout, des autorités et qui est toléré. On appelle ça ces activités allégales.
Allégales.
Allégales. Oui. Alors,
c'est privatisé, c'est comme amoral et immoral. Donc,
allégales. Okay. Alors, et justement, il ne faut pas confondre entre ces différentes composantes de l'économie informelle. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le secteur des petites et micro-entreprises, effectivement, qui ne transgressent pas délibérément la réglementation, qui fonctionnent au vu et aussi des autorités au grand jour, sans poser d'énormes problèmes. Alors, ce secteur est hétérogène, bien évidemment. C'est un secteur composé pour la grande majorité d'activités de survie, et pour une autre composante beaucoup moins forte d'activités dont le système organisationnel et les caractéristiques se rapprochent des entreprises du secteur moderne, mais qui sont très peu nombreuses. Ce secteur, selon le HCP, est défini, je prends cette définition-là, parce qu'effectivement, c'est le HCP qui a réalisé vraiment les grandes enquêtes très très lourdes. Selon le HCP, le secteur informel est constitué de micro-entreprises de production de services et de commerce qui ne disposent pas d'une comptabilité en bonne et due forme. C'est le critère. L'Organisation internationale du travail donne une autre définition beaucoup plus large. Mais disons par rapport au Maroc, on peut dire que c'est des activités qui fonctionnent à petite échelle, avec peu de capital, avec une main-d'œuvre familiale, un apprentissage qui se fait sur le tas et qui parfois fonctionne selon des logiques anciennes.
Alors, on reviendra sur les principales caractéristiques, mais le poids de l'informel que j'ai donné tout à l'heure, 46% du PIB.
Je crois qu'avant de revenir, avant d'aborder la question du poids, qui est une question fondamentale pour voir son évolution, c'est dynamique, revenons un petit peu sur ce concept même de... Parce qu'il est important de le comprendre. Pour éviter toute confusion, parce qu'on parle d'illicite, d'illégal, souterrain, etc. Donc, le concept de secteur informel ou d'emploi informel est apparu pour la première fois dans les années 70. Il a été discuté théoriquement par un certain nombre d'économistes, de statisticiens. Et il a fallu pratiquement deux décennies pour passer du concept à sa mesure. C'est la difficulté. Et la communauté internationale, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un comité de statisticiens et le BIT, une des branches des agences de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de la question de l'emploi, celle qui coordonnait ces travaux. Ces statisticiens et économistes ont obtenu une définition internationale, normée, enfin qui est normalisée, parce que pour qu'il puisse y avoir comparaison, évidemment, il faut qu'on ait la même définition. Et qui a établit une distinction assez claire, très claire même, entre l'informel dont on va parler tout le long de cette émission et l'illégal ou l'illicite, dont on ne va pas parler, qui ne fait pas qui ne fait pas partie de l'enquête du HCP, ni des enquêtes à travers le monde pour des raisons multiples.
On ne connaît pas beaucoup d'ailleurs.
Et qui
on ne va pas parler de trafic de drogue, donc qui est de toute façon illégal par essence. On ne va pas formaliser le trafic.
Non, des choses. Et puis une exclusion. Enfin, ici, il faut bien savoir qu'on a exclu volontairement l'agriculture de ce champ d'observation. Donc, c'est une des enquêtes hors agriculture, parce que l'agriculture, dans sa quasi-totalité, consiste en de l'informel, en dehors de quelques grandes exploitations. Donc, et en plus, les problématiques sont très différentes.
Oui, parce que ce sont des travailleurs occasionnels qui ne sont très peu déclarés à la CNSS. Alors, mais bon, il y en a un.
De cela, on est passé finalement, donc une fois que cette définition a été, il y a eu un consensus, on est passé aux méthodes d'enquête. On a fixé les méthodes d'enquête qui ont été normalisées à la fin des années 80. Et la méthodologie, la difficulté essentielle, c'est l'identification de ces unités de production informelle. C'est ça le plus dur. Alors, c'est là où il y a eu innovation sur le plan, je veux dire, statistique entre statisticiens et économistes. On a procédé en deux temps. On a d'abord utilisé l'enquête sur l'emploi, qui a un échantillon extrêmement large. Au Maroc, c'est 60 000 ménages qui sont enquêtés tous les ans.
Et qui permet d'avoir le taux de chômage.
Exactement. Oui. Et qui a permis, avec un questionnaire spécial, d'identifier les unités de production informelles au sein de ces ménages. Une fois qu'on les a identifiés, on est passé à une deuxième phase qui consiste en l'enquête proprement dite, avec un échantillon considérable. C'est l'enquête de 2007 a enquêté auprès de 11 000 unités de production informelle. Donc c'est ça le substrat, et c'est à partir de là qu'une enquête d'une très grande richesse, mais dont on ne voit pas beaucoup l'écho, dont peu de gens s'emparent de la chose, en dehors de quelques rares chercheurs, rares journalistes, elle est d'une richesse tout à fait considérable. Ce qui fait dire même à certains économistes qu'aujourd'hui, on connaît mieux le secteur informel, tel qu'il a été défini, que le secteur formel. Voilà, en deux mots,
quand on voit, son poids, on se dit que c'est quand même nécessaire.
Non, mais on a fait une avancée considérable en termes de connaissance du secteur. Parce qu'avant 1999, au Maroc, chacun avançait à la petite cuillère. Et puis, finalement, il n'y avait aucune base scientifique pour dire, voilà, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas que la discussion est close, mais ce qui fait loi, c'est l'enquête de HCP. Alors, jusqu'à présent, on a eu deux enquêtes, et la troisième a eu lieu déjà, entre 2013-2014, mais on attend encore les résultats qui, on m'a dit, que dans un mois, c'est un peu dommage, on aurait eu cette émission.
On la refera, vous inquiétez pas, c'est un sujet quand même qui est...
Et c'est extrêmement intéressant pour voir la dynamique. Donc il y a une période ici à peu près de 7 ou 7 ans.
Oui, Faisal Sarfé, ensuite on reviendra bien sûr sur l'évolution.
Je voudrais juste revenir sur une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est l'informel en tant que phénomène social ou phénomène économique, entre guillemets. J'emprunte peut-être la formule à notre professeur Mjaté, c'est sur... l'idée de l'informel pluriel, c'est-à-dire que, bien entendu, on va faire la distinction entre l'informel et les activités délictuelles, comme par exemple la contrebande, ou le trafic, la contrebande de cigarettes, d'alcool et de textiles, qu'on a par exemple au niveau de la frontière est. Mais il y a aussi, je pense aussi qu'il y a quelque part, il y a eu une évolution qui a fait que certaines activités dites artisanales, on n'a pas su les accompagner pour qu'elle embrasse, on va dire, l'évolution de notre système juridique et économique. Nous avons certes le petit artisan de Fès, d'Essaouira ou de l'Aïoun, mais ces gens-là, on aurait peut-être, c'est vrai, c'est des artisans, mais on en parlait tout à l'heure hors antenne, hors plateau, pardon, et on disait qu'ils méconnaissaient ce système. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine rupture, entre guillemets, de relationnel entre l'État, l'autorité et ces gens-là? Donc il y a eu peut-être un travail anthropologique à faire, d'amener ces gens-là, ces artisans, à évoluer d'une certaine manière pour embrasser justement le tissu économique et suivre un peu la vague sur le plan. Mais on n'a pas fait ce travail-là. Donc peut-être vous l'avez souligné dans votre ouvrage que il y a une méconnaissance du système, comme disent certains artisans. Et moi je voulais appuyer sur ce point anthropologique, on va dire, de, oui. dans l'évolution de la société, du mécanisme économique et de ces, on va dire, de ces verrous.
Alors, l'informel aujourd'hui, moi si je prends une définition qui va mettre d'accord tout le monde, c'est tout simplement toutes ces entreprises, toutes ces unités économiques telles qu'on les appelle d'un point de vue économique, qui finalement échappent à l'impôt. Et qui sort du radar du fisc. Parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui pose le problème de cet informel? C'est de ramener ces gens-là dans leur capacité contributive à payer des impôts comme une autre partie de la population. Comment est la moitié? Est-ce qu'on est aujourd'hui...
Oui. Qui a été retenu oui. comme... Pardon. Oui. Qui a été retenu pour des raisons pratiques et pour simplifier, c'est toute unité de production qui ne tient pas une comptabilité en bonne et due forme, que cela a été selon les règles.
Oui, vous savez qu'il y a des régimes au niveau fiscaux qui existent chez nous
qui ne payent aucun impôt.
Ne nécessitent pas une comptabilité tenue. Hein.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne payent aucun impôt. 20% à peu près de ces unités de production informelles sont enregistrées à la patente.
Voilà.
Hein. Et certaines même payent la CNSS. Mmh. Hein, c'est juste pour vous dire. Alors, oui. c'est extrêmement complexe de faire...
C'est pour ça qu'on parle d'informel pluriel, justement, mmh. dans la mesure où on n'est plus dans l'informel pur et dur, si j'ose dire, on est plutôt dans l'informel du formel, c'est-à-dire on est dans la sous-facturation, dans la fraude fiscale, dans la non-déclaration
ça, c'est autre chose.
De cotisations sociales.
On va bien faire la différence,
oui, mais,
parce que justement
pour parler de
ces expériences pilotes, notamment à Célébron aussi, pour qu'on y arrive et qu'on comprenne, parce qu'on là on parle de marchand ambulant, c'est-à-dire faut juste pour qu'on visualise bien, genre, on est tous marocains, on va dans la rue, on va tous dans les sorts, on va dans la rue, on voit tous ces marchands ambulants. Alors il y a ces marchands ambulants qui sont dans des situations quasiment de survie, comme vous l'avez dit. Il y a d'autres unités qui font quand même du chiffre d'affaires, mais qui finalement ne contribuent pas à l'impôt comme ils le devraient, parce qu'on paye une taxe professionnelle une fois par an, sur la base, après, sur son chiffre d'affaires qui n'est pas déclaré. Et puis après, il y a tout ce phénomène de gens qui sont dans le formel, mais qui après, on parlera de fraude fiscale, mais ça, c'est, on en a déjà beaucoup parlé.
On parlera de la fraude fiscale. Voilà. Parce que là, vous avez, à travers votre définition, c'est ce qu'on appelle dans le jargon économique une définition légaliste.
Oui.
C'est-à-dire que c'est l'absence de réglementation ou l'absence du rapport au fisc qui définit l'informalité. Or, l'informalité est définie par d'autres critères.
Oui.
Les premiers travaux du Bureau international du travail se sont intéressés essentiellement à la petite entreprise. D'autres se sont intéressés à l'économie populaire, notamment les travaux en Amérique latine, etc. Je ne vais pas revenir trop là-dessus parce que c'est trop compliqué. Mais on ne peut pas définir l'informel uniquement à travers le prisme de la réglementation fiscale, puisque effectivement, alors je voudrais juste, avant d'aborder cette question, donner quelques flashs sur ce que c'est que cette économie, quelques indicateurs importants. Mm-hmm. Bon, ça a été dit dans le reportage, c'est 14% du PIB.
Ah non, beaucoup c'est 30... plus. On est 46, non?
Non, je ne crois pas.
On est à 14% du PIB.
C'est uniquement, je crois qu'il y a une erreur, c'est 14% du PIB, selon le HCP. Là, je ne sais pas, c'est pas du tout mes chiffres, les grands chiffres. Mais c'est des chiffres à prendre avec beaucoup de précaution parce que les méthodes de mesure diffèrent d'un pays à l'autre.
Oui, parce que j'ai quand même dans des pays européens, mais en Suède, qui a quand même une économie extrêmement encadrée, on parle de 9% de la part de l'informel.
Oui. Alors c'est sûrement sous-estimé.
C'est le black, c'est-à-dire en gros, voilà. Oui.
C'est par définition, c'est des activités difficiles à mesurer qui échappent à la visibilité.
Par définition.
Donc c'est des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions. En revanche, il y a des chiffres qui sont très caractéristiques et pertinents. Le secteur informel, c'est quand même 70% de l'auto-emploi. 75% des travailleurs le secteur informel 75, sont des travailleurs de l'auto-emploi. Or, l'auto-emploi, il ne faut pas se faire d'illusions, ça répond à des impératifs de survie. Et très souvent, on s'en sert dans l'auto-emploi comme palliatif au chômage. Mmh. Quoi. Donc, ceux qui ne trouvent pas d'activité ou comment s'insérer. Voilà. Donc, effectivement, parce qu'on dit que l'informel est choisi. Quand on voit que c'est 70%, 75%, c'est de l'auto-emploi, eh bien, on se pose des questions. Est-ce que c'est réellement choisi ou un choix subi? Donc, alors, c'est un chiffre. En revanche, les micro-entreprises qui disposent de plus de 5 emplois représentent 2%. Ce qui est pratiquement epsilon. Donc on voit bien la grosse masse. Hein, là. De quoi est composé l'informel? Il ne faut pas se faire d'illusions sur où le choix. Où... Alors, autre chiffre intéressant et autre dynamique importante qu'il faut soulever, c'est qu'il y a, au fil des enquêtes entre 1999 et l'enquête de 2016, on a réalisé qu'il y avait une dynamique de prolifération des micro-entreprises. 50% des entreprises du secteur informel ont été créées entre 1999 et 2007, entre les deux. C'est énorme. Même si la tendance existait au préalable, oui. Que 50% des entreprises soient créées, c'est qu'il y a... ce qui a proliféré aussi, c'est les activités de commerce, le bâtiment et les services. Alors c'est le commerce, par définition, sont des activités qui sont peu exigeantes en capital et en qualification particulière. Alors que les services relativement un peu plus quand même, le bâtiment. Et en revanche, les activités de petite production, les activités industrielles ont connu le même mouvement de baisse que l'industrie formelle, l'industrie des grandes entreprises. Alors, l'industrie crée des emplois. Oui. L'industrie crée des emplois.
Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que par rapport justement à cette caractéristique de l'auto-emploi à hauteur de 75%, l'informel, c'est beaucoup aussi dans le... Il a une caractéristique citadine, à peu près les deux tiers des activités se concentrent dans les villes, enfin, bien évidemment, comme des villes comme Casablanca, ainsi de suite, et ce qui s'explique aussi par l'exode rural, par main-d'œuvre peu qualifiée, parce qu'on n'a pas de diplôme, on ne sait pas faire beaucoup de choses, on n'a pas appris un métier... Parfois même, d'après la récente étude qui a été publiée par la Banque européenne de reconstruction et de développement et la Banque européenne d'investissement ainsi que la Banque mondiale, on cite aussi parfois le manque de protection juridique insuffisante, la bureaucratie à titre d'exemple. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui font que... Mais je pense que si on voulait prendre ou se pencher d'une manière très... de faire microscopique sur l'informel au Maroc, moi je pense qu'a priori on va trouver beaucoup cette histoire d'exode rural, mais surtout aussi le manque de qualification aussi qui joue énormément, ce qui fait qu'on a surtout des jeunes, je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont se réorienter vers une activité informelle.
Alors justement, juste pour venir sur... on a bien vu le poids de cette activité informelle. On a vu le rôle social aussi qu'elle joue, qui est indéniable. Je voulais juste un tweet. Je vais mettre un mot entre guillemets quand même, parce que j'aime pas ce terme. Mais c'est un tweetos qui nous dit « L'économie informelle a permis au Maroc, je mets des gros guillemets, inutile de survivre, impossible de les convaincre d'arrêter. » Je mets des gros guillemets sur « inutile ». C'est la mention d'un tweet, même si ce Maroc est loin d'être inutile, bien au contraire. Mais c'est...
Pour donner une idée de l'ampleur et de l'importance de l'informel, tout à l'heure, dans le reportage, vous avez cité 1,5 million d'unités de production informelle. En 2007, par rapport à 1,2 million, donc il y a eu... Entre-temps, en 8 ans, 320 000 unités de plus, presque 40 000 par an, considérable. Ceci en termes d'unités. Mais comme la taille moyenne d'une unité est de 1,4, donc ça se traduit en emploi, donc c'est un chiffre que j'aimerais bien partager, c'est qu'en 2007, on avait recensé 2,2 millions d'emplois dans l'informel, hors agriculture. Comparé à 1,9 million en 1999. Ce qui fait que, ici aussi, nous avions, c'est-à-dire, le secteur informel a créé annuellement 40 000 emplois par an.
C'est autant de gens au moment où le secteur moderne de l'économie débouche. Le paradoxe dans tout cela,
c'est qu'en même temps, le poids de l'informel dans la création de richesses dans le produit intérieur brut a diminué. C'est-à-dire, je vous donne les chiffres, il est passé de 16,3% en 1999 à 14,3% exactement en 2007. Donc, il y a une baisse de 2%, qui est très significative. Donc, c'est le poids en termes. Et la part dans l'emploi non agricole également a baissé de 2%, puisqu'il est passé de 39% à 37%. Alors, c'est ça le paradoxe intéressant. C'est qu'en même temps, et ça... C'est classique, c'est plus l'économie progresse, plus elle est diversifiée, plus elle se complexifie, et plus le poids de l'informel baisse en termes de sa part dans le PIB. Mais en même temps, il continue à créer de l'emploi. et avec un volume. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, par rapport, on n'a pas les données de 2014, mais la grande question, est-ce qu'on va assister, y aura-t-il confirmation de cette tendance ou non ? Moi, mon sentiment, c'est que, en logique, compte tenu de la diversification de l'économie marocaine, le taux de croissance soutenu qu'il y a eu ces 10 dernières années, il va y avoir confirmation de ce paradoxe, c'est-à-dire baisse du poids de l'informel en tant que part dans le PIB, mais en même temps, elle continuera à créer des emplois. On ne sait pas à quel rythme. On ne sait pas à quel rythme. Et c'est ça qui va... on va assister à ce phénomène-là, d'ailleurs qu'on perçoit aujourd'hui, quand on se balade dans la rue. On voit de plus en plus de marchands ambulants. Mais d'un autre côté, il faut savoir que la part globale, donc sa contribution dans la richesse générée dans le pays, baisse. Oui. Alors, voilà ce qu'il faut préciser.
Alors, c'est une question très intéressante, à mon avis. Parce qu'effectivement, une vision très positive du secteur informel consiste à dire que c'est un secteur qui pallie au chômage du secteur moderne, qui peut se substituer à la limite à l'emploi du secteur moderne, créateur d'emplois.
C'est un peu mettre des œillères, voilà. Parce qu'on est quand même sur des métiers extrêmement précaires, avec des revenus
absolument,
extrêmement faibles.
Voilà. Bon. Alors, il crée des emplois, des revenus et des formations dans des conditions, effectivement, d'une très grande précarité. N'oublions pas que le secteur, il y a une absence totale de protection sociale, et ça, c'est très intéressant à souligner, et j'espère... Il y a eu un projet, il y a le projet de l'association de l'AMI, l'assurance maladie obligatoire pour les indépendants, les professions libérales, où une part de l'informel doit être inclue. Alors ils vont procéder progressivement, à commencer par les plus structurés, les médecins, pharmaciens, etc. etc. Et donc il est important de souligner qu'il y a absence de protection sociale dans ce secteur, qu'il n'y a pas de contrat de travail. Vous allez me dire que même dans le secteur formel de l'économie, ça existe, mais il y a de simples contrats verbaux qui scellent une alliance entre deux partenaires.
Une relation entre employeur et employé, elle est régie de toute façon.
Il y a de l'instabilité dans l'emploi, des revenus qui sont irréguliers, des revenus hétérogènes, certes, pour les patrons, ils sont un peu plus élevés que le SMIC, mais pour la grande majorité, ils sont inférieurs. Alors, donc, c'est une très grande, de la grande fragilité et de la vulnérabilité qu'il faut souligner au sein du secteur informel. C'est aussi le travail des femmes, c'est aussi le travail des enfants. Il ne faut pas l'oublier que de nombreux enfants travaillent encore dans le secteur informel. Les moins de 18 ans, parmi les au sein des mécaniciens garagistes, au sein de tout ce volet-là. Mais en même temps, les petits-enfants qui vendent des sachets en plastique ou autre chose qu'on voit moins peut-être dans les grandes villes, mais dans les villes moyennes, ils sont très très nombreux. Bah, c'est aussi ça, et c'est la grande précarité.
Mais là aussi, dans le terme de définition, on est à la limite entre la mendicité et l'activité informelle.
Je passe la parole sur ce que disait Mkizoué, oui, pour terminer justement sur ce paradoxe entre des emplois qui prolifèrent au sein du secteur informel et un PIB qui baisse, dans le PIB, parce que, en fait, c'est les activités de commerce qui se consolident. Et les activités de commerce, ce n'est que de l'argent qui fait changer de main. Le gâteau est le même. Il n'y a pas de création de richesse. Le gâteau est... Et il y a une démultiplication
c'est de la
création
de richesse,
et une divisibilité. Ça crée commerce. De la divisibilité. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va être divisé jusqu'à arriver au consommateur final. Qui ne s'est pas baladé dans les JOTIA pour ne pas trouver parfois une pièce ou un jeu de cartes déjà usagé qui est en train de se vendre. Donc, c'est
paradoxe. 110 milliards de dirhams en termes de valeur ajoutée.
De valeur absolue. Excusez-moi, on voit bien que la nature a horreur du vide. Il y a un moment, on ne peut pas dire les gens qui sont dans l'informel, il y a création d'emplois qui est en train de se mettre. On va voir les moyens qui sont mis en œuvre. Parce que quand on parle de faire passer l'informel vers le formel, certains parlent de passer de l'ombre à la lumière, mais là aujourd'hui, il faudrait quoi? Que ces nouveaux emplois qui se créent dans l'informel soient captés et soient créés dans le formel.
Et c'est là où je vais en venir par rapport au paradoxe. Moi, franchement, je pense que vu... je vais peut-être légaliser un peu le débat, mais on n'a jamais assisté à une production législative aussi énorme. Si on compare par rapport à 2011, on a deux grands temps législatifs, à mon sens,
on a eu le protectorat, création de ce qu'on appelait le Maroc moderne, et 2011, avec la constitution de 2011. Depuis, toutes... pratiquement tous les, on va dire, toutes les institutions...
C'est un sacré raccourci, là.
Oui. Non, mais c'est vraiment en termes de production législative, c'est énorme. Oui. Le dernier rapport du secrétariat général du gouvernement, il confirme cette tendance vers enfin, j'ai pas vraiment, je voudrais pas dire de bêtises, mais on est vraiment dans une... C'est une machine à...
Oui, à créer
bon, passons. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une judiciarisation aussi de la société. Ça, c'est très important de soulever. L'agence judiciaire du royaume qui défend l'État dans les procès, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans ses multiples rapports depuis notamment 2007, elle nous dit qu'il y a une tendance vers la judiciarisation. C'est-à-dire que le Marocain, il s'imprègne de la loi. Il y a une culture juridique qui est en train de s'installer. Là où je voulais en venir, c'est que justement ce légalisme qui est en train de prendre forme dans notre société, tôt ou tard, il va partir à la... Et on est déjà dans le cas de figure. Il va partir à la chasse contre l'informel, justement. La dernière loi qui a été adoptée sur l'auto-entrepreneuriat...
Alors, on va y arriver,
on va y arriver, on va parler des différents moyens. Pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement...
Avant qu'on ait un différent moyen, on verra ce qui est mis en œuvre. Est-ce que ça peut fonctionner? Et avant qu'on aille à ça, je poserai la question sur, on va dire, toutes les organisations, finalement, parce que là, on parle des petits vendeurs ambulants, mais il y a des organisations au sein de l'informel, très, très intégrées, intelligentes et extrêmement organisées. On fait une petite pause, on revient juste après. Retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, et on essaye de comprendre finalement de quoi est composée l'économie informelle et surtout les solutions qui peuvent être mises en œuvre. On va parler des plateformes de proximité, on va parler du statut de l'auto-entrepreneur, on va parler des amnesties fiscales pour essayer d'amener les gens vers le secteur informel. Ce qui me faisait vous poser la question tout à l'heure par rapport, vous avez dit que j'avais une analyse très légaliste de la chose, mais quand on a mis en place des dispositifs pour ramener les gens vers le formel, c'était des dispositifs fiscaux, bien sûr. Bon, on va y revenir. Avant qu'on parle des solutions, je vous posais une question toute simple. Aujourd'hui, on parle de commerce ambulant, on parle de marchand ambulant, on parlait tout à l'heure, avant l'émission, de marchand de DVD, on est dans l'illicite. On a des chiffonniers, c'est aussi une activité, les Michel, qui sont une activité extrêmement utile pour l'environnement également. Il y a des organisations derrière. On voit bien qu'il y a aussi toute une pyramide, que c'est huilé, je pense aux DVD piratés, on voit bien que tout le monde a la même chose en même temps. Il y a une organisation derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement sur des unités qui sont éparses, indépendantes, on a aussi des capacités à fédérer et à mettre en place des systèmes économiques qui tiennent la route, finalement, à la manière d'entreprises structurées.
Je crois que d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a des interrelations très fortes entre le formel et l'informel. Oui. Il ne faut pas se faire d'illusions. On connaît très très bien, il y a une affaire qui a éclaté il y a quelques années par rapport aux marchands ambulants, ce qu'on appelle les tabliers, ils sont sur des tables de fruits et légumes, et on a vu que derrière, à Casablanca, derrière cette grande structure, il y avait des grossistes, un grossiste avec un hangar énorme, très structuré, très organisé, et qui envoyait donc les réseaux de distribution. Oui. Donc, il y a des interrelations fortes entre le formel et l'informel. Il ne faut pas se faire d'illusions. De la même façon que, en tout cas, moi, les enquêtes que j'ai menées dans les médinas, etc., très, très souvent, on avait un magasin de bonneterie, petite confection, et à la porte, il y avait une table, et c'était la même personne qui disposait et de la table et du magasin. Donc du localisé et du non localisé, ambulant, etc. Dans la vinanderie, dans l'artisanat aussi qui s'informalise, c'est la même chose. Donc les processus de commercialisation pour plusieurs et avec des interconnexions entre le formel et l'informel. Maintenant, pour revenir un petit peu, je ne dis pas que vous avez une vision légaliste. Est-ce qu'on peut formaliser l'informel uniquement, formaliser ou une transition intégrée l'informel dans le formel uniquement à travers cette vision et cette proposition fiscaliste. C'est ça la grande question. C'est la grande question.
Le prisme sous lequel ça a été.
C'est le prisme où c'est fait même actuellement. Oui. Le statut de l'auto-entrepreneur, c'est à travers des incitations fiscales. Il n'y a rien d'autre. Mm-hmm. Il n'y a aucune autre mesure d'accompagnement.
Non, je pense qu'il y a aussi la prévoyance, c'est-à-dire les cotisations sociales. Je pense que c'est ça le vrai deal, en fait.
Alors, on voit juste un reportage, on va pouvoir en parler. On regarde un petit sujet de Torfer Nasri.
On l'a dit, souterraine, noire, illégale, occulte, irrégulière ou encore clandestine, l'économie informelle est considérée comme un véritable obstacle à la croissance du pays. Elle représenterait 14% du PIB. Elle est souvent perçue comme un secteur gangréné par la corruption où la main-d'œuvre est surexploitée, souvent sans couverture sociale. Les agents économiques s'affranchissent de toutes les règles fiscales et administratives. Ils ne procèdent à aucune déclaration d'existence, n'établissent aucune facture et ne s'acquittent d'aucun impôt ni d'aucune taxe. Souvent, ils n'utilisent aucun moyen de paiement doté d'une traçabilité et n'inscrivent pas les salariés à la CNSS. En revanche, l'économie souterraine peut être aussi considérée comme un résultat naturel des pathologies du secteur formel, voire une échappatoire importante aux effets de l'exode rural, un secteur générateur de revenus permettant à une frange de plus en plus large de la population de vivre. Elle absorbe en effet une bonne partie de la main-d'œuvre à la recherche de l'emploi. Pour y remédier, plusieurs mesures ont été prises. Le gouvernement a par exemple lancé plusieurs plateformes de proximité. Il a aménagé un régime fiscal exceptionnel pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams en les soumettant à un taux réduit de l'IS de 15%. Mais ce n'est qu'un début, beaucoup reste à faire, à commencer par réformer le secteur formel.
Voilà, alors on va pouvoir voir les solutions. Alors, l'IS de 15%, c'était les mesures qui avaient été déjà enclenchées. Aujourd'hui, on a changé complètement de type de fiscalité sur l'IS. On est aujourd'hui pas basé sur le chiffre d'affaires, mais sur le bénéfice. Et dans la loi de finances 2016, on a eu des paliers progressifs. C'est ce que demandait la CGEM et c'est ce qui sera en place comme mesure au niveau de la loi de finances 2016, donc c'est-à-dire pour l'exercice prochain. Hein, on est bien d'accord. Alors, les mesures qui ont été mises en place... on va dire, faire passer l'informel vers le formel. On l'a bien vu, hein. On revient encore sur le prisme fiscal. On a vu que ça n'avait pas fonctionné, finalement, lorsqu'on avait mis en place cette amnistie fiscale. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller vers une autre, vous disiez, Faisal Fakhri, c'est un autre deal qu'il faut, justement.
C'est exactement ça. Je pense que quand on a une politique... surtout en matière sociale ou économique, bien évidemment, il faut montrer l'intérêt pour la cible. Qu'est-ce que je gagne si je passe de l'informel au formel?
C'est quoi l'argument?
Exactement, voilà. L'argument.
C'est quoi l'argument?
Qu'est-ce que je gagne? C'est aussi simple que ça. Je pense qu'aujourd'hui, que la plupart des gens, j'en suis convaincu que c'est le volet social qui va les pousser à migrer vers le formel. Pourquoi? Parce que les gens, ils savent qu'ils ont besoin d'une assurance maladie, qu'ils ont d'une prise en charge, d'une retraite, d'une prise en charge en cas d'accident, ainsi de suite. Enfin, contre les accidents de la vie en général. Et lorsque, par exemple, aujourd'hui, les taxistes, par exemple, qui exercent une activité formelle, ils vous disent, nous, on paye les impôts, on fait, mais on n'a pas de couverture. Donc, vous voyez, je pense aujourd'hui que c'est l'argument fondamental, l'argument le plus fort qui existe. Je voudrais juste revenir sur l'histoire des parallèles entre l'informel et le formel. Aujourd'hui, parallèlement justement à la carotte fiscale, il y a aussi un autre corpus juridique en matière de blanchiment d'argent, en matière de quand on parle justement de l'amnistie fiscale pour les gens qui veulent migrer de l'informel au formel, il y a aussi la prescription, c'est-à-dire que vous avez une prescription de 10 ans. C'est-à-dire qu'on a rallongé, je pense qu'on est passé de 4 à 10 ans, ce qui suppose que le gouvernement, il est très bien conscient que c'est vrai, la carotte c'est intéressant, mais il garde dans la main droite, il a toujours le bâton pour taper très 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 fort.
Pour mieux voir comment la politique publique peuvent remédier à la chose, en quelque sorte, il faut qu'on parle de secteur informel au pluriel. Et non pas au singulier. Parce qu'au sein même du secteur informel, tel qu'il est décrit et appréhendé par l'enquête du HCP, il y a d'énormes disparités. Par exemple, le chiffre d'affaires moyen est de 240 000 dirhams par an en 2007. J'ai eu 240 000 dirhams contre 180 000 dirhams. Mais sachez que finalement, le quintile...
140 000 dirhams, ça fait 20 000 dirhams par mois.
Absolument. Ouais. Sachez que le quintile le plus bas, les 20% qui sont en bas de l'échelle, ont un revenu moyen de 4 900 dirhams par an. Alors que celui qui est le plus élevé va jusqu'à 670 000. Donc, il est évident que le traitement vis-à-vis de quintile supérieur...
L'écart type, il est énorme.
Évidemment. Mmh. Celui qui est il ne demande pas mieux que de rester là où il est, etc., en dehors du fisc, alors que celui qui est en bas, il voudrait adhérer au formel, parce qu'il est conscient de la précarité
de sa situation.
Alors ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on prenne l'habitude de parler de secteur informel, au pluriel. Et en plus, le secteur informel, hélas, a une connotation négative. Mais ce n'est pas, à vrai dire, un substitut au formel, mais un complément, tout simplement, parce que dans les nouveaux quartiers périphériques, etc., il n'y a pas d'installation, de supermarché, de ceci. Il est évident que la nature ayant horreur du vide, ils vont. Donc c'est un complément. Et la relation que entretient économiquement parlant, en termes de système des prix, entre l'informel et le formel, est extrêmement importante. Les deux font partie intégrante de cette économie. Si aujourd'hui, au Maroc, on a des coûts, un coût de la vie assez bas comparé à d'autres, tout simplement parce que tous les services qui sont offerts par l'informel sont à des niveaux de prestations, à un niveau de prix bien plus bas que ce qui aurait pu être fait si on avait généralisé, par exemple, le commerce formel. Donc ça, c'est extrême. La sous-traitance aussi, qui est utilisée par les entreprises formelles.
Alors justement,
donc c'est une imbrication extrêmement...
Est-ce qu'aujourd'hui, on ne fonctionne pas par ricochet? Est-ce que c'est une bonne chose? Là, je prends aujourd'hui les dispositions. On a bien vu que la Direction générale des impôts va mettre en place la télédéclaration. Elle est obligatoire pour un certain type d'entreprise. En 2017, elle sera totalement obligatoire. Il y a l'instauration de l'identifiant commun des entreprises. Exactement. On demande aux entreprises d'avoir des factures qui soient avec des numéros, des identifiants fiscaux, etc. Est-ce qu'on ne fonctionne pas par ricochet pour que les gens qui sont formalisés dans le formel pousse finalement les sous-traitants, par exemple, dans le bâtiment, dans beaucoup d'autres secteurs, à dire bah, « moi, je ne travaille pas avec toi si tu ne me donnes pas de facture, si tu n'es pas dans l'informel. » Est-ce que finalement, on n'est pas dans, aujourd'hui, toutes ces entreprises qui disent « ah, mais on ne tape que sur ceux qui payent », est-ce que finalement, ce n'est pas une manière aussi qui peut fonctionner de dire « voilà, on vous utilise, vous, pour ramener tous les autres vers le formel ». Est-ce que ça peut être une chose qui fonctionne?
Je continue et persiste ici que la vision fiscaliste à elle-même ne peut pas être efficace. Et il y a des expériences internationales intéressantes qui ont montré leurs preuves.
Alors, il y a l'Uruguay, le Brésil et l'Inde, on a des expériences qui sont intéressantes.
Oui, on a des expériences en Uruguay qui sont intéressantes, mais aussi en Asie, en Afrique.
Je vous prends juste l'Uruguay. Alors, c'est encore une fois, excusez-moi, mais c'est encore une approche fiscaliste, puisqu'on a un système de collecte simplifié, unifié pour les petits contribuables, appelé monotributo, c'est la monotaxe.
Ouais.
Mais, alors, comme on disait le deal, c'est que les personnes qui payent cette taxe unique, chaque année, ont le droit aux mêmes prestations de sécurité sociale que tous les autres.
Voilà,
en fait, et ça fonctionne.
Bien sûr que ça fonctionne, bien évidemment. Au Brésil, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet à très grande échelle. Nous, on a des projets, il y a eu des tentatives de formalisation telles que la microfinance à travers le microcrédit, à travers les activités génératrices de revenus, sans parler maintenant des activités de ce qui est beaucoup plus proche, l'auto-entrepreneur et actuellement. Donc. Alors moi, ce que je dis, la vision fiscaliste, elle est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Autrement dit, les acteurs de l'économie informelle ont des stratégies de contournement par rapport à ça. Ils connaissent le terrain, ils savent. Vous les pourchassez, ils vont se reproduire ailleurs. Il ne suffit pas de mettre en place un terrain et construire des chapiteaux pour que ceci fonctionne. On sait très très bien que le grand problème qui se pose par rapport aux informels, le grand obstacle, que ce soit par rapport aux activités localisées ou ambulantes, c'est le problème de la demande. De la formation, bien évidemment, il y a de nombreux obstacles. Mais si on les met dans un terrain où il n'y a pas ce que les géographes appellent une économie d'agglomération, et que la plupart des activités soient là, d'ailleurs, c'est de Bernossi, je pense, ou un autre projet à Casablanca, ce que revendique un petit peu ce que contexte les informels, c'est de dire, mais il n'y a pas de moyen de transport, on ne peut pas accepter un terrain, personne ne va venir. Et ils ont tout à fait raison.
Et c'est là que les triporteurs
leur stratégie...
qui sont dans l'informel, alors, qui sont illégaux.
Pour voir la perception de l'avenir, la question de la perception de l'avenir a été posée dans cette enquête, dans les enquêtes du HCP, aux concernés, à ceux qui travaillent. Alors, selon qu'ils sont optimistes pour l'avenir ou pessimistes, ils se partagent pratiquement moitié-moitié, selon le secteur, selon la classe de quintile où ils sont en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle. Donc, sans rentrer dans le détail, mais il leur posait la question, quel type d'assistance vous souhaitez? Lorsqu'il vient en premier, c'est quoi? C'est d'abord l'accès au crédit. L'accès au crédit, parce que c'est là où le bas blesse, et parce que la contribution du système bancaire classique est extrêmement limitée, 2 ou 3%, alors que l'essentiel vient de l'épargne personnelle, près de 50%, 20% provient des prêts accordés par des amis ou de la famille. Donc ça, c'est un obstacle majeur. Et on n'a pas vu d'avancée en dehors de la question du microcrédit, mais ça, ce n'est pas le système classique. Alors, justement, l'enquête de 2014 va nous renseigner, va être extrêmement intéressante pour voir quel a été l'impact du microcrédit en termes de financement. Ça, c'est, on attend les... Et puis, la deuxième demande qui a été faite, enfin, le deuxième souhait, c'est l'acquisition d'un local professionnel, tout simplement. Parce que, on aura peut-être oublié de le dire, mais l'informel, en 2007, ceux qui étaient dans, n'avaient pas de local représentaient 50%.
Absolument.
Alors, donc sur le 2 millions et quelques qu'on a, donc la moitié, et c'est essentiellement évidemment des marchands ambulants, qui dans le monde urbain, si mes souvenirs sont bons, représentaient à peu près 850 000, dont 250 000 uniquement comme marchands ambulants. Et les autres, 260 000 à peu près, c'était des commerçants de détail qui avaient des locaux. Donc, c'est aussi important d'avoir une idée, parce que nous, généralement, quand on parle de l'informel, les gens ne voient que les marchands ambulants. Mais non, ils représentent seulement 10% ou disons 12% de l'ensemble
des employés. D'un point de vue manque à gagner, encore une fois, pour l'administration fiscale,
Parce qu'ils sont visibles.
Parce qu'ils ont des revenus.
Parce qu'ils sont visibles. Oui. Parce qu'il y a encore une partie non négligeable qui travaille à domicile.
Ils payent des impôts, il y a des droits de place qu'ils payent. Ils payent des impôts locaux.
Oui, ils payent des taxes directes.
Ceux qui sont localisés payent des patentes, ça a été dit tout à l'heure. Mais ce qu'ils contestent le plus, ce n'est pas le fait de ne pas payer, c'est pas le montant et le fisc, en tout cas dans l'artisanat que je connais le mieux, ce qui est le contexte, c'est des formules non adaptées telles que l'impôt forfaitaire qui s'appuie non pas sur les résultats réels de la production, mais sur une évaluation tout à fait forfaitaire, laissée à la discrétion parfois des agents de l'impôt, etc. Donc en période de crise, ce système est fortement contesté parce qu'il s'agit d'activités pour la plupart du temps qui sont des activités saisonnières, avec un travail instable. C'est des activités parfois qui font et qui se défont. Moi, je parle même délocalisé. Les mécaniciens garagistes contestent fortement l'impôt forfaitaire parce qu'il y a des périodes où c'est la période creuse, où ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. L'été, ils travaillent parce qu'il y a des migrants, mais il y a des périodes où ils ne travaillent pas. Alors, donc, c'est ça ce qui est le contexte le plus. Voilà. Donc, ils payent une partie des impôts et pas d'autres, comme le secteur formel paie une partie du fisc et pas d'autres. En même temps, ce qu'ils contestent, c'est ce système forfaitaire qui est inadapté. Donc, toute politique fiscale appropriée devrait tenir compte de 3 éléments. D'abord, de l'hétérogénéité du secteur informel. Il faut savoir aller au fiscalisé. Autant les activités délictueuses sont imposées, et autant les activités informelles, eh bien, il faut réfléchir davantage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas les imposer. Dans un état de droit, on a, je l'ai dit sur ce plateau la dernière fois, il me semble, il y a des devoirs et des obligations et tout citoyen doit payer ses impôts puis, maintenant.
Non, mais il y a le principe aussi qu'il y a ceux qui payent et ceux qui ne payent pas.
Qui ne payent pas.
Et pour une, voilà, aujourd'hui même la politique
qui est.
Oui, bon, ça c'est autre chose. Mais la politique qui est prônée, c'est justement une équité fiscale.
Absolument.
Qui fait baisser d'un autre côté la fraude fiscale dans la perception. Absolument. C'est une équation qui est globale. Oui,
moi, je pense qu'il y a déjà, enfin, de par notre discussion, il y a déjà pour revenir au deal. Il y a bien évidemment la protection sociale. L'enquête du HCP nous dit que ces gens-là, ils cherchent une stabilité professionnelle dans la mesure où ils n'ont pas de local, ils veulent un local. Il y a l'histoire de l'accès au financement, par exemple. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est des éléments sur lesquels une politique d'État peut s'appuyer pour aller de l'avant. D'ailleurs, le statut de l'entrepreneur...
L'accompagnement pour la maîtrise des marchés. Ils ne maîtrisent pas les mécanismes du marché.
Et le statut de l'entrepreneur, il va dans ce sens.
Alors justement, le statut de l'entrepreneur, là, je suis sur le site, hein, je suis allé vérifier. Bon, alors il y a deux, on sépare bien les métiers d'artisanat et de production des métiers de service. Mmh. On est à 500 000 pour les métiers d'artisanat, 200 000 pour les métiers de service. Et finalement, quand on fait le calcul, c'est un impôt qui, au grand maximum, et de 4 000 dirhams par an. Donc on revient un peu sur l'expérience uruguayenne. Quoi. Mm-hmm. 4 000 dirhams pour le secteur des services et 5 000 dirhams au grand maximum pour une activité d'artisanat ou de production. Donc est-ce qu'on est vraiment dans l'exemple du Uruguay?
Comme vous l'exposez, oui, moi je pense que oui. D'autant plus qu'il faut dire que, bon, professeur, je n'atteins même pas trop l'approche fiscaliste, mais...
Non, je ne dis pas...
Qu'elle n'est pas
suffisante. Oui, s'il n'y a pas d'autres mesures d'accompagnement, les projets risquent d'échouer et on a déjà eu l'expérience. Ce n'est pas nouveau.
Oui, oui, oui.
C'est tout ce que je dis. Au contraire, je dis qu'il faut que tout citoyen doit s'acquitter de la fiscalité.
Il faut avoir plusieurs manières d'agir.
Mais
on est bien
voilà.
D'accord. Mais aujourd'hui, et ça c'est le directeur général des impôts, M. Amar Farage, pardon, qui le dit, il dit qu'on cible l'informel arrogant et non pas l'informel vivrier.
C'est-à-dire, les gens qui gagnent beaucoup d'argent.
C'est-à-dire,
et qui ne déclarent.
Et qui ne le déclarent. Ou bien c'est des gens qui sont dans le formel et qui font de l'informel. La sous-facturation, la fraude, ainsi de suite, et j'en passe. Mais ce qui est très intéressant à observer aujourd'hui, c'est en termes de politique d'État, c'est qu'on essaye de trouver cet équilibre entre le plus et le moins. C'est-à-dire, on veut pas attaquer, on veut intégrer. Si on intègre, vous êtes les bienvenus. Si vous ne voulez pas, on vous attaque. Pourquoi on vous attaque ? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, qu'on le veuille ou non, il y a toujours, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a un contexte sécuritaire très particulier qui fait qu'il y a beaucoup de flux financement d'argent. Bon, le bon hasard fait que le Maroc, il a une loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et aujourd'hui, tous les États du monde, ils sont très, très, très vigilants en matière de financement sur les flux financiers. Chaque centime qui passe, on doit le détecter. Et je pense que c'est cet exercice-là qu'on est en train de faire depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, qui fait que l'étau, il va se resserrer sur l'informel qu'on le veut.
Il y a une donnée qui est quand même essentielle. C'est le taux de bancarisation et les transactions en cash. On est encore, aujourd'hui, quoi qu'on dise, toutes les transactions financières, j'avais vu circuler un chiffre, mais bon, on est en termes de transactions en cash, on est bien au-dessus de tout ce qui se fait d'un point de vue, la monnaie fiduciaire bat la monnaie structurelle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le taux de bancarisation, c'est extrêmement important pour qu'on puisse formaliser tout ce secteur.
Non, je voulais revenir à la question de aussi comment traiter la question de sociale, même
de la migration du formel
vers l'informel. Les marchands ambulants essentiellement qui ont la situation la plus précaire. Hein. Il y a un besoin de reconnaissance de leur métier. Hein. Et ça, on ne le fait pas suffisamment. Et je crois que ces jeunes, ils sont très jeunes, le moyen d'âge est assez faible, ont besoin d'un coup de pouce et, j'allais dire, de reconnaissance pour valoriser leur statut. Pourquoi à la télévision, on ne peut pas imaginer une émission pour dénicher les jeunes talents d'entrepreneurs, parce qu'il y a des gens absolument géniaux, hein, qui ont dû sortir de l'école, etc., ou n'ont jamais été à l'école, mais qui nous donnent une leçon de courage et d'humilité.
Non, et surtout des leçons de marketing.
Une leçon de marketing.
Parce qu'ils connaissent très bien les besoins des populations et le marketing, c'est bien
pourquoi
le...
Pourquoi ne pas, dans une proposition que je fais à votre chaîne, ne pas une sorte d'émission recherche de talents des entrepreneurs itinérants. Je crois qu'on aurait énormément à apprendre, parce que c'est véritablement une école. Autant l'école, en quel classique, inhibe l'entrepreneuriat, autant l'école de la vie, parce que c'est la débrouille, c'est la survie. Et on a une multitude d'exemples. Et pourquoi ne pas valoriser ceci? Pourquoi? Parce que c'est un statut, il ne faut pas s'illusionner, qui va nous accompagner encore pour les décennies à venir. Et c'est un phénomène mondial, hein, qui n'est pas propre au Maroc. Mais et pas seulement dans...
Je vous pose une question sur le miroir, qui est le consommateur, parce qu'il a un rôle là-dedans. Le consommateur est demandeur. Un consommateur qui va aller acheter dans une entreprise structurée, il sait qu'il va payer plus cher, parce qu'il y aura de la TVA, parce que cette entreprise paye de l'impôt, etc. Alors qu'il sait très bien que s'il va chez un commerçant informel, il va payer moins cher. Est-ce que cette équation-là, on la prend en considération?
Il y a des segments de l'informel qui s'adressent à des segments spécifiques de la population, c'est-à-dire aux catégories à faible revenu. Et il n'y a à ce moment-là pas de concurrence purement déloyale, comme on peut le dire. Maintenant, sur certains autres, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi générale. Hein. Il y a des segments qui s'adressent aux catégories les plus pauvres de la population sur les marchés locaux de Tardoum, etc. Vous n'allez pas voir, vous allez voir des catégories de la population bien spécifiques qui vont là-bas.
Mais ça reste limité.
Alors maintenant, moi j'aimerais revenir, on a imaginé toutes les solutions, fiscalité, mesures d'accompagnement. Moi je dis une chose qui est très importante, ça a été soulevé tout à l'heure. Il faut aussi agir sur... prévenir l'informel avant qu'il ne se produise et agir donc sur les causes. Les causes, c'est le chômage des jeunes, des diplômés et des femmes. La montée du chômage a été sans précédent ces trois dernières décennies. Et donc il faut de véritables réformes du marché du travail. Les ruptures scolaires, on sait qu'au niveau du collégial, les ruptures scolaires sont énormes. Et c'est ces jeunes déscolarisés qui viennent... Grossir le secteur des activités informelles. Ils sont d'ailleurs de plus en plus scolarisés. Il faut agir sur la pauvreté, la montée de la pauvreté, même si elle a baissé. Il y a eu une montée de la pauvreté durant les années 80 et 90. Il faut agir sur le mode de développement d'une manière générale qui est peu créateur d'emplois. Donc il faut aussi envisager toutes ces choses-là.
Hein. Sur la manière de penser l'urbain aussi, l'espace urbain, c'est très important parce que qui dit par exemple marchand ambulant dit occupation du domaine public. Aujourd'hui, moi je suis, et vous avez d'ailleurs à juste titre souligné le fait que les marchands ambulants ont besoin d'une reconnaissance de leur métier. On peut garder les charrettes, pourquoi pas? Mais bon, des charrettes...
C'est l'expérience justement de ces plateformes de proximité.
Exactement. On pourrait même en faire une sorte d'attraction touristique, entre guillemets, quelque chose qui, par exemple, les vendeurs, enfin, les gens qui vendent de la viande, qui font de la grillade, à titre d'exemple. On peut penser, par exemple, à des endroits où on ne fait que de la grillade et qui servirait aussi d'attraction touristique. C'est exactement jamais fait.
Ça participe de l'animation des villes. Des visiteurs suisses que j'avais accompagnés dans le Médina qui disaient, vous ne pouvez pas imaginez la chance que vous avez d'avoir cette animation. Nous, ce n'est pas possible. Hein, on est obligé de rentrer dans les supermarchés, etc. Et finalement, les modes de consommation changent.
Et les rapports humains,
exactement. Moi, je fais partie de ceux qui vont le moins possible au supermarché. Hein, je privilégie le commerce de proximité, j'ai mes petites habitudes.
Donc, ils vont être contents.
Je veux dire, il y a un double phénomène. Il y a évidemment la découverte des supermarchés pour la grande majorité de la population, effectivement, parce que bon, il y a encore beaucoup de marge. Mais d'un autre côté, il y a des tendances annonciatrices.
Bah, je défends pas la société de consommation, de consommation. Il y a quand même des considérations d'hygiène aujourd'hui, quand on parle d'espaces d'aménagement, qui sont extrêmement importants. On voit les initiatives de l'INDH où on a muni des poissonniers avec des triporteurs qui sont aménagés avec des frigos.
Les expériences qui ont réussi, justement, sont celles qui ont pris en considération ces questions de conditions sanitaires et aussi celles qui ont été menées à l'échelle locale. Hein, parce que la plupart des programmes qui n'ont pas donné de bons résultats, ils étaient prévus par le ministère du Commerce, etc.
Dans des bureaux.
Alors, on a construit des milliers de locaux qui n'ont jamais été utilisés parce qu'ils ont été mal ciblés Moi, je me souviens très bien, enfin, on connaît tous, en venant de la route côtière, à un certain moment, en venant de Bouznika, il y avait un joli, voilà, pendant des décennies. Oui. Alors, un beau jour, la commune a pensé, bon, voilà, d'une manière géniale, on va, donc, sur une vingtaine ou une trentaine de magasins, et chaque fois que je passais, je disais à mon épouse, tu paries que jamais, il n'y aura un seul commerçant qui va travailler parce que ça restera vide. Et 5 ans après, ou 10 ans après, aujourd'hui, toujours c'est toujours vide.
Exact.
C'est vrai. Donc, et tout le monde le savait.
Mmh. Mais je voudrais aussi souligner juste une expérience très intéressante, justement, quand on parle de... Parce que finalement, l'histoire de l'informel, c'est l'histoire d'une société. Repenser l'espace public, repenser nos activités, nos rapports humains, ainsi de suite. Il y a les femmes qui vendent des escargots, par exemple, sur la corniche casablancaise. Ouais. Je trouvais que c'était formidable. C'est-à-dire, on leur a donné je ne sais pas comment on va appeler ça,
des carrioles
avec des numéros, avec, avec un vêtement de travail, ainsi de suite. Et donc, ça fait joli, ça donne envie. Et ça donne envie, ça crée aussi une activité.
Et ça valorise.
Ça valorise certainement.
Ça valorise mieux, encore mieux s'il y avait une protection sociale.
Ah, mais clair, bien sûr, chance, évidemment.
Et ça, j'espère que le projet de l'AMI va s'adresser à ces catégories.
Je vous ai parlé de la bancarisation tout à l'heure, il nous reste vraiment une petite minute. Vous n'avez pas rebondi là-dessus, mais la bancarisation, c'est quand même un élément important également.
Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, les taux se resserrent. Quand on voit les mesures qui ont été dictées, etc., pour les factures, il va y avoir un double phénomène. Mais finalement, il va y avoir l'expérience internationale, parce que finalement, on n'invente pas la poudre. Il va y avoir une obligation, une sorte...
Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio, from drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. Professional, student, and community productions in and around Montreal, Chautauqua, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah DeA, recording from home on Thursday, April 28th, 2022. An absolutely jam-packed show on the way. Writer Marc-André Thibault and director Ellen David team up to take his play, Mazel Tov, to new audiences.
Ellen, she came and saw the show and we said, okay, we should try to do an English version. So I'm really thrilled about it.
So I went to see the play and I was just sort of blown away. I mean, it was very dark, very funny, very tragic comic, and it just sort of pushed the envelope in so many ways.
Lisa Rubin at the Siegel Center also has a newly translated play, April Fools, a rock cabaret about a woman who dares to indulge in a fantasy.
But she questions, you know, can we find room or make room, or why do we not allow ourselves to talk about the fantasies that are buried, the secrets that are buried within us? And I think that's a very rare